Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons au studio le nouveau directeur de la Direction départementale des territoires des Hautes-Alpes, Thierry Durand. Entré en poste de ce poste de directeur il y a un mois, le 13 janvier, suite au départ à la retraite de Thierry Chapelle. Bonjour, monsieur le directeur.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation.
Je vous prie.
Et pour commencer, je vous propose de rappeler rapidement ce qu'est la DDT, donc la Direction départementale des territoires. Il s'agit d'un service déconcentré de l'État, organisé à l'échelle départementale et qui a une vocation interministérielle, mais qui relève du ministère de l'Intérieur. C'est un service sous l'autorité du préfet et les DDT sont compétentes alors en matière de politique d'aménagement, de développement durable, d'agriculture, aussi d'éducation routière. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que sont les missions concrètement de cette DDT pour qu'on la connaisse un peu mieux ?
Tout d'abord, cette DDT est rattachée à trois ministères de tutelle. Le ministère de l'Intérieur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais également le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture. Donc effectivement, une direction interministérielle qui, du coup, intervient sur de nombreux aspects du développement du territoire. Je dirais peut-être ce que l'on appréhende le plus souvent, c'est sa mission de promotion d'un développement durable et équilibré dans le département. Je dirais équilibré entre politique agricole, politique d'urbanisme, politique de transport, mais également des missions très importantes autour de l'habitat. Et Dieu sait si cette question est une question prégnante dans le département des Hautes-Alpes.
J'espère qu'on pourra y revenir à la fin de cette interview.
Volontiers. Par ailleurs, donc, cette direction intervient aussi en appui à l'agriculture et notamment pour promouvoir les fonctions économiques, mais également environnementales, sociales de l'agriculture et de la forêt. Et dans ce département également, bien évidemment, le département rural, ça fait partie des fondamentaux d'une DDT, vous l'imaginez bien. Et ensuite, parmi nos missions, il y en a quelques-unes qui concernent des événements d'ailleurs récents qu'a connu le département dans les années 2023-2024, et les événements climatiques. Et c'est-à-dire que la DDT intervient aussi dans la prévention des risques naturels, en appui bien sûr aux opérateurs. Et ces risques naturels qui peuvent être les risques torrentiels, les risques d'inondation, mais également des risques qui sont de plus en plus prégnants, comme les risques incendies de forêt, qu'on a parfois tendance à oublier. On n'est pas tout à fait dans le pourtour méditerranéen, mais pour autant, ça fait partie des risques qui sont les de plus en plus importants et qui risquent d'évoluer plutôt à la hausse dans la perspective notamment de réchauffement climatique que l'on pourrait connaître dans les prochaines années. Ensuite, cette DDT a également des missions importantes dans la gestion de la ressource, ressources quantitatives en eau, quantitatives et qualitatives, et également dans la gestion des espaces naturels et forestiers. Et parmi les responsabilités liées à la gestion des espaces naturels, on a toute la problématique, pour le compte du ministère de l'Environnement, de la mise en place de la stratégie nationale air protégée, donc des missions de préservation, de conservation de la biodiversité, mais également des missions d'accompagnement d'activités comme la chasse ou la pêche, qui sont d'autres modalités d'occupation du territoire et d'occupation de nos espaces naturels. Voilà, dans les grandes lignes.
Et comment est-ce que vous vous inscrivez dans l'organigramme politique ? Vous dépendez du préfet ?
Je suis sous la responsabilité du préfet, tout à fait.
D'accord. Et donc, vous travaillez en collaboration avec la préfecture pour développer ces missions ? Vous avez certains services, vous êtes indépendant ?
On travaille en lien étroit avec le préfet tout d'abord et ses services. Lien étroit, ça veut dire qu'on est en lien quasiment permanent toutes les semaines. On fait un point sur les dossiers en comité de direction. On se contacte très, très régulièrement et ça fait partie du flux naturel de l'échange entre la préfecture et ses services déconcentrés.
Et donc, dans les Hautes-Alpes, vous avez 125 agents. Et vous avez été nommé à la tête de la DDT donc il y a un mois, je le rappelle. Comment ça se passe ?
Ben écoutez, ça se passe bien parce que déjà j'arrive dans une équipe qui est une équipe motivée, compétente, avec un cercle de comité de direction qui est un cercle relativement jeune, dynamique, avec de très bons cas, des équipes techniques qui sont très impliquées sur le terrain. Donc sincèrement, pour moi, ça fait partie des conditions idéales pour aborder un nouveau poste dans un département que par ailleurs je connais, mais que je ne connais que pour l'avoir parcouru sous d'autres horizons, lorsque j'étais soit directeur adjoint du Parc national des Écrins, soit en tant que citoyen, parce que j'habite depuis 18 ans à Gap, mais ça fait 35 ans en gros que je fréquente ce département, puisque j'ai des attaches familiales sur le canton de la Grave.
Et vous connaissiez certains des acteurs de ces anciens postes que vous occupiez, vous connaissiez des personnes avec qui vous travaillez aujourd'hui, ça a permis aussi de fluidifier peut-être votre entrée en poste ?
Probablement, mais en même temps, vous savez, je suis là depuis un mois et malheureusement, Je n'ai pas encore eu le temps dont j'aurais souhaité bénéficier pour pouvoir aller à nouveau à leur rencontre, mais ça fait partie notamment des visites de courtoisie qui sont consécutives à une prise de fonction, et j'aurais plaisir à en redécouvrir certains d'entre eux que je n'ai pas eu le temps de visiter ces derniers jours, vous l'imaginez bien.
Bien sûr, un mois c'est court.
C'est très court.
Pourquoi vous à ce poste ?
Ah ben ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Monsieur le Préfet en priorité.
Vous avez une idée ?
Eh bien, je pense que mon attachement au département a probablement compté, et puis vraisemblablement aussi le fait que j'ai un parcours un peu singulier, un peu pluridisciplinaire, et dans un département, on a des problématiques assez complexes, où bien souvent, il faut mettre des acteurs d'horizons différents autour d'une même table pour arriver à résoudre des problèmes qui peuvent parfois être simples, quand on parle par exemple de gestion de l'eau ou gestion de la forêt, mais non, en réalité, on est sur des problématiques de multi-usage, et j'imagine que ce profil un petit peu atypique a dû séduire, ou tout au moins a dû tenter, Monsieur le Préfet, de tenter l'aventure avec moi pour ces quelques années.
J'aimerais bien revenir sur ce profil, justement. Vous venez du monde vétérinaire, de la santé, aujourd'hui directeur d'une DDT. Quel chemin de l'un à l'autre ?
Alors tout d'abord, je ne suis pas le seul, rassurez-vous.
On n'était pas inquiets.
Je ne suis pas atypique à ce point. Non, ça fait partie d'un parcours assez logique. Effectivement, j'ai commencé mon métier en tant que vétérinaire dans les années 80 maintenant, hein, ça remonte déjà à quelques décennies. J'ai d'abord exercé dans l'ouest de la France, mais très rapidement, je suis tombé amoureux des Hautes-Alpes et j'ai eu envie dans les années 90 de me réorienter. De me réorienter tout d'abord vers des problématiques qui étaient quand même en lien avec le monde vétérinaire, c'est tout ce qui est les problématiques liées aux interactions sanitaires entre les cheptels domestiques et la grande faune sauvage, donc toujours dans le monde de l'épidémiologie. Et c'est ce qui m'a amené du coup à m'intéresser d'une part à la géographie alpine. J'ai fait une formation à l'Institut Géographie Alpine de Grenoble, et puis à la gestion des espaces protégés que sont non pas, je pensais encore pas à l'époque, parc national, mais les parcs naturels régionaux, qui sont très beaux projets de territoire, on en a deux dans le département, et qui sont, l'approche des parcs régionaux m'a permis de comprendre du coup cette complexité d'acteurs, et ça fait partie des choses qui m'ont incité à me dire qu'il serait peut-être opportun que j'approfondisse cette voie-là. Donc je l'ai approfondie progressivement, je suis rentré peut-être un peu tardivement dans l'administration, à la fin des années 90, avec un premier poste dans les services vétérinaires, là ça ne vous surprendra pas. Et après, quelques expériences complémentaires, notamment à la direction régionale de l'environnement de Montpellier. Et à cette époque-là, moi, je m'occupais bien sûr de biodiversité, parce que j'étais responsable d'une unité biodiversité, mais je m'occupais aussi, pour une part non négligeable, de projets de territoire qui étaient à l'époque les parcs naturels régionaux des Pyrénées catalanes, du Haut-Languedoc et de la Narbonnaise, mais pour deux d'entre eux, des parcs de montagne, et dans lesquels je retrouver quelques similitudes avec nos territoires, notamment préalpins. Alors pas forcément les écrins, on est sur les Alpes internes, sur les Hautes-Alpes, mais quelques similitudes malgré tout avec les préalpes méditerranéennes. Et puis donc il y a eu cette opportunité de me rapprocher plus concrètement de Gap, et notamment lorsque j'ai été recruté comme directeur adjoint du parc des écrins.
Vous venez de Normandie au départ, vous parlez de cet amour pour la montagne, mais d'où il vient ?
Ah, peut-être aussi d'une histoire familiale.
Comme beaucoup, je pense.
Voilà.
D'accord. Donc, vous connaissiez déjà, vous avez déjà eu des affinités auparavant avec la montagne
Disons que je fréquente la montagne depuis, la fin des années 80. En particulier, la commune de La Grave, d'où est originaire ma belle-famille. Et j'ai vécu aussi 6 ans dans le massif des Bauges, dans les Alpes du Nord. Donc, Préalpes, c'est-à-dire en fait un territoire tout à fait différent. On n'est pas sur les contrastes altitudinaux, on n'est pas sur les régimes pluviaux que l'on a dans nos Alpes internes, mais quand même beaucoup de similitudes, avec une ruralité très marquée qui fait d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé aussi mon passage dans les Bauges. C'est une belle ruralité, comme dans notre département des Hautes-Alpes.
Et ce parcours assez pluridisciplinaire, quelles compétences vous pensez avoir développées qui vous seraient utiles aujourd'hui dans ce poste de directeur de la direction départementale des territoires ?
Je pense que, il me semble en tout cas que ce ne sont pas forcément des compétences techniques pointues, en l'occurrence qui peuvent apporter, de mon point de vue, une valeur ajoutée, mais peut-être aussi une aptitude à prendre du recul du coup. Et c'est vrai qu'en ayant travaillé sur des approches de santé globale, sur des enjeux qui lient aussi bien l'humain que l'animal, que l'environnement, environnementale, en ayant notamment par mon passage en Diren ou en DDT travaillé sur les projets de territoire. Je pense modestement, mais ça c'est l'avenir qui le dira, j'ai peut-être acquis une capacité à la fois à prendre du recul et peut-être aussi à faire, je dirais, ce petit pas de côté qui fait que de temps en temps, on examine les choses sous un angle un petit peu différent et on peut parfois mettre des gens autour d'une table qu'on n'aurait pas forcément imaginé mettre dans un cercle de réflexion pour essayer de trouver des solutions à plusieurs, là où individuellement, parfois, on est en manque de ressources. Donc, c'est peut-être cette capacité à faire du réseau, mais c'est l'avenir qui le dira.
C'est l'avenir, et en même temps, vous étiez juste avant directeur adjoint de la DDTM dans l'Hérault.
Tout à fait.
Donc, vous avez déjà pu voir à travers ce poste quelques compétences, quelques...
Ah oui, tout à fait. Puis, même si les départements sont différents, pour autant, il y a quand même quelques fortes similitudes. C'est vrai que dans le département des Hautes-Alpes, on parle effectivement de risques naturels. Je crois que les départements circum-méditerranéens sont plutôt bien servis de ce point de vue-là aussi, malheureusement. On parle de précarité du logement et curieusement, je me suis rendu compte que les salaires moyens étaient assez similaires et que finalement, on avait des taux de précarité, de logement indigne qui étaient quand même assez similaires dans des départements extrêmement différents en termes de profil, par contre, socio-économique. Donc, des préoccupations qui, malgré tout, sont assez proches. Et puis, effectivement, le département de l'Hérault, en tant que département méditerranéen, c'est un département qui est fortement impacté déjà, d'ores et déjà, par le changement climatique et par la raréfaction des ressources. Ces ressources, qu'elles soient des ressources foncières, quand on parle de l'étalement urbain, mais que ce soit aussi des ressources en eau, et avec, en l'occurrence, des crises relativement aiguës sur lesquelles il faut effectivement parfois avoir cette capacité à mettre les gens autour de table dans une situation très tendue. Et avec parfois une telle acuité dans la crise et dans les tensions qu'on a du mal à faire émerger des pistes de compromis. Donc c'est vrai qu'on est, c'est un laboratoire, je ne dirais pas, de ce qui pourrait nous arriver dans les années qui viennent, mais à travers cette expérience-là, pardon, je perçois quand même les difficultés qu'on pourrait rencontrer.
Ou qu'on si rencontre déjà.
Aujourd'hui, on ne se met pas de manière posée, apaisée, je dirais presque en situation de paix, autour d'une même table pour réfléchir à l'avenir, en tout cas. C'est vrai que ça m'interpelle beaucoup par rapport à la capacité que nous aurons à nous mobiliser pour réfléchir à demain et réfléchir à une gestion sereine de nos ressources pour autant que ce soit possible.
Surtout que c'est déjà le cas, vous parlez au futur, mais on a déjà des cas de crise ou en tout cas de risque, de gestion de risque qui sont apparus dans le département.
Tout à fait, et puis également des tensions sur la ressource en eau, qui est une vraie préoccupation pour le monde agricole, mais également pour les populations, parce que quand on parle de raréfaction, on peut aussi se trouver dans des situations, sur des épisodes de pollution ou autres, des situations où on serait amené à distribuer de l'eau aux populations dans un contexte de crise aiguë. Et l'intelligence collective doit nous permettre d'éviter justement de se retrouver dans ces situations-là, et il est toujours plus facile de raisonner en temps de paix qu'en temps de crise.
Bien sûr, prévenir. Et je rebondis sur la question agricole. Les deux années précédentes ont été marquées par la crise agricole. Il y a eu les élections syndicales qui viennent de se terminer. Dans ce contexte de tension, la DDT a été visée plus ou moins symboliquement par des manifestations. Avez-vous des espaces de discussion avec les agriculteurs et les agricultrices ?
Ah oui, bien sûr, mais ces espaces de discussion, non seulement on les a, mais ils sont permanents. Vous faisiez référence à la période passée, relativement proche, à savoir celle des élections, et ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'une période de campagne électorale n'est jamais une période sereine, quoi qu'il en soit. Bon, certes, on peut déplorer certains débordements, je dirais. On sait très bien dans quel contexte ces débordements interviennent. On peut être compréhensif, même si je dois vous dire que pour mes équipes, c'était parfois un peu difficile, notamment quand je mesure l'engagement qu'ils ont justement pour la cause agricole et pour faire en sorte justement qu'on soit au rendez-vous, que ce soit sur le paiement des aides, que ce soit sur l'accompagnement des agriculteurs en difficulté. Donc effectivement, on était dans un contexte très particulier, mais pour autant, indépendamment, si vous voulez, des effets de tribune que l'on peut avoir dans un contexte préélectoral, il y a toujours une qualité de relation et je pense que c'est aussi un enjeu que de l'entretenir, cette relation, même si on sait que parfois les crises, les difficultés qui sont réelles, les difficultés du quotidien que rencontrent nos agriculteurs font qu'il peut y avoir de temps en temps des débordements, un sentiment d'abandon parfois, un sentiment de complexité. Et en l'occurrence, je pense qu'on est là aussi pour écouter et on appréciera dans la durée que l'on revienne à une situation plus apaisée. Mais je pense que déjà cette période un peu tendue et difficile est derrière nous. On a un exécutif qui semble s'inscrire dans la continuité et je n'ai pas trop de doute quant au fait que très très prochainement, on va reprendre un rythme régulier d'échanges avec la Chambre notamment. On a prévu organiser des bilatérales régulières justement pour faire le point sur nos dossiers. Et puis, je pense qu'aussi, on a un enjeu à se voir régulièrement pour parler du futur, quoi. Le futur, c'est l'installation de nos jeunes, c'est aussi comment on va appréhender ces enjeux liés à l'eau, au réchauffement, quelles opportunités. Je suis assez optimiste sur le fait que l'on remue ciel et terre pour trouver des solutions pour notre agriculture alpine.
Oui, vous parliez d'écoute, mais pas seulement de l'écoute, alors de l'opérationnel.
Ah ben oui, je pense que l'essence d'un projet de territoire, c'est certes de s'entendre sur ce qu'est l'état des lieux. C'est aussi de comprendre là où il y aura des points d'achoppement, et notamment lorsqu'on est sur une gestion partagée de la ressource, on sait combien ça peut être difficile. Et puis, je pense qu'une des responsabilités, c'est de mettre toutes les ingénieries autour de la table pour réfléchir, alors que ce soit l'INRAE, que ce soit les syndicats agricoles, que ce soit les filières socio-professionnelles, pour réfléchir justement aux défis qu'on a à relever ensemble. Mmh. Je pense notamment à des filières arboricoles, aux filières laitières, aux questions de labellisation. Et il est vrai que là, il y a des adaptations à envisager. Et ce qui est important, c'est qu'on se coordonne bien et qu'on partage bien les constats d'abord pour se mettre en ordre de bataille.
J'aimerais aborder un deuxième sujet, Monsieur Durand, sur le logement. Vous en parliez également tout à l'heure. Il y a une crise du logement dans les Hautes-Alpes. Quelle est votre position ? Il y a eu un premier comité de pilotage il y a un an. Vous n'étiez donc pas là. En février 2024, avec une présentation de l'état des lieux réalisée sur commande de la DDT par l'Agence d'urbanisme des Pays d'Aix-Durance. Que s'est-il passé depuis ? Est-ce qu'il y a eu d'autres réunions ? Est-ce qu'il y a eu d'autres réflexions ?
Il y a eu des réunions, il y a eu le comité de pilotage, et c'est vrai que il y a aussi, et je pense que c'est assez essentiel, cette démarche stratégique qui a été engagée par le préfet, par le président du conseil départemental, qui vise effectivement à travailler principalement sur la base d'un diagnostic qui est actualisé sur la question du développement d'une offre de logements permanents. On sait qu'on a dans ce département d'assez grandes difficultés qui sont liées à la disponibilité du foncier. Alors curieusement, il n'y a pas beaucoup, comment dire, de logements vacants. Le turnover parmi le logement disponible est relativement satisfaisant. Je crois qu'on tourne un petit peu en dessous de 10% de logements vacants. Mais ce qui est problématique, c'est la part de logements secondaires. Et du coup, il y a un vrai enjeu sur cette mobilisation du logement. Il y a un enjeu également pour mieux accompagner les opérations de rénovation. Là, ça fait appel à d'autres difficultés qui ne sont pas forcément faciles à appréhender quand on vient d'autres territoires, mais qui sont vraiment une réalité chez nous. C'est la difficulté à mobiliser l'ingénierie, à mobiliser des bureaux d'études, à mobiliser parfois tout ce qui est assistance à la conduite de projets par nos collectivités, lorsqu'on est sur des projets conduits par des collectifs ou par nos opérateurs également. Et peut-être aussi, y a-t-il des enjeux à réfléchir sur de nouveaux modes de logement, des logements qui soient adaptés aux différentes générations, aux différents modes d'habiter. Donc je pense qu'il y a probablement aussi de l'innovation. Mais on part déjà d'un état des lieux qui est un état des lieux un peu complexe quand même, avec malgré tout, et c'est un des points qu'on retrouve dans beaucoup de zones à enjeux touristiques, compte tenu de l'attractivité de ces territoires, les enjeux notamment liés à la remise en circulation d'une partie des lits froids qui aujourd'hui sont soit des résidences secondaires, soit des résidences secondaires ou principales qui sont utilisées au travers de plateformes comme Airbnb par exemple, pour ne pas le citer. Et ça fait partie en fait des axes de réflexion pour remobiliser du foncier et faire en sorte que nos jeunes notamment, mais aussi que nos saisonniers puissent se loger lorsqu'ils veulent rester sur nos territoires et venir y travailler.
Donc, un sujet qui est sur la table et que vous reprenez là, avec votre prise de poste.
Oui, tout à fait. Puis un sujet moi, qui m'interpelle aussi à titre personnel. J'ai fait de la rénovation pour faire du logement social. Donc, c'est quelque chose qui m'interpelle à titre personnel parce que je pense que derrière cela, il y a certes la capacité qu'ont les pouvoirs publics à intervenir en lien avec les opérateurs. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait évident. Il y a le rôle de l'ANAH, c'est fondamental. Et puis, il y a aussi le citoyen. Et je pense que le citoyen a sa part aussi à prendre dans cette réflexion sur une solidarité. Je pense qu'il faut arriver à faire vivre dans les territoires de manière à ce que chacun ait sa place.
Un sujet qui vous parle, donc que vous allez sûrement développer dans ce poste. Y a-t-il d'autres sujets, d'autres projets qui vous tiennent à cœur en tant que nouveau directeur de la DDT des Hautes-Alpes ?
Le premier, je pense, c'est peut-être d'apaiser les tensions entre des intérêts qui peuvent parfois paraître inconciliables, mais qui pourtant me semblent assez évidents à concilier. Je prendrai juste un exemple de l'opposition parfois entre la protection de l'environnement et l'agriculture. C'est un sujet qui est un sujet difficile. Et pour autant, pour avoir travaillé aussi sur les approches globales de la santé, je peux mesurer à quel point, lorsque l'on est dans des situations de crise climatique ou autre, en fait, autant la biodiversité que l'agrodiversité en pâtissent. Et je pense qu'on occupe les mêmes sols, on occupe les mêmes ressources. Et je pense qu'il y a, pour moi, un enjeu à dépassionner ces débats pour essayer de construire des choses. Et certes, il y a un enjeu de diversification de nos filières. Il y a peut-être aussi une place pour l'agroécologie à côté d'autres modes de production agricole. Et ce qui est important, je pense, c'est de ne pas aborder ces questions-là dans une approche dogmatique, mais de se dire que c'est une mosaïque, en fait, d'activités complémentaires qu'il faudra réussir à mettre en place sur ce territoire, parce qu'on n'est pas dans un territoire de grande production agricole comme l'ouest de la France, on est dans un territoire fragile. Et je pense que dans ces territoires fragiles, souvent, on trouve des solutions en mettant en œuvre des mosaïques de petites solutions sur des petites niches économiques complémentaires de niches plus significatives. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu d'accompagnement. Et ça, j'attacherai beaucoup d'importance, que ce soit sur la question du logement ou que ce soit sur la question des filières comme l'arboriculture. Il y a des enjeux d'accompagnement au changement. Je pense que notamment d'accompagner ces infrastructures pour rendre plus performants les dispositifs d'aspersion, pour qu'il y ait une économie de l'eau qui nous permette de garder cette eau aussi, pour lutter contre les gels tardifs de début de saison. Enfin, toute cette réflexion sur une gestion partagée qui me semble importante. Et puis, également, un autre domaine sur lequel j'ai travaillé qui m'interpelle, qui est celui du développement des énergies renouvelables. On est dans un département qui a de forts enjeux paysagers, mais qui a aussi une forte responsabilité en matière de développement d'énergies renouvelables. Et je pense que là encore, il y a un enjeu à mettre en place un dialogue localement, a fortiori dans un département où l'attractivité paysagère est quand même une ressource assez essentielle pour l'activité touristique. Donc, sur ces points-là, j'ai été interpellé par quelques élus, par quelques opérateurs ces dernières semaines. Ce sont des sujets qui m'interpelle et mon rôle sera parfois aussi de faire un peu de médiation pour faire en sorte que les gens réussissent à se parler sur des sujets qui sont des sujets à enjeux partagés, c'est bien évident.
Vaste mission également.
Passionnante.
Sûrement passionnant. Merci Monsieur Durand.
Je vous en prie.
Pour ce partage, pour cette première présentation du nouveau directeur de la DDT des Hautes-Alpes. Nous espérons que nous aurons l'occasion de vous accueillir à nouveau pour développer plus dans le détail.
Avec plaisir.
Tous ces projets. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Bonne journée à toutes et tous.